franceinter.fr.
Bonjour Patricia, bonjour Pierre et bonjour à tous. Quelquefois si douce, quand la vie me touche, quelquefois si drôle, sur un coin d'épaule, quelquefois si seule, parfois elles le veulent, je n'en connais pas de facile, je n'en connais que de fragile, et difficile, oui, difficile. Vous avez reconnu les paroles, Patricia?
Ah oui, bien sûr, c'est « Femmes, je vous aime » de Julien Clerc.
Une chanson magnifique, n'est-ce pas?
Une chanson magnifique.
Julien Clerc aime les femmes. Les chanteurs aiment les femmes, les poètes aiment les femmes, mais les médias, visiblement, ne les aiment pas beaucoup. C'est en tout cas ce qui ressort du troisième baromètre de la parité, dont se fait l'écho le JDD. Baromètre de la place qu'ont occupée les femmes dans la presse française l'an dernier. Et en l'occurrence, une place moins importante que les années précédentes. Alors que trois quarts des articles publiés en 2015 dans les journaux et magazines citaient exclusivement des hommes, seuls 10% étaient exclusivement consacrés à des femmes. Avec en tête Marine Le Pen, suivie de Ségolène Royal et Angela Merkel. Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, que la société reste encore vraiment dans la non-parité, commente l'historien et spécialiste des médias Patrick Evenot dans les colonnes du journal, sachant que la presse est le reflet de la société et qu'elle s'intéresse surtout aux personnages de premier plan. Or, ce sont toujours essentiellement des hommes qui occupent des postes de premier plan. Cependant, à deux jours de la journée des femmes et pour l'égalité des droits, certains journaux donnent l'impression de vouloir se rattraper.
Oui, et trois femmes font ainsi la une de Ouest France ce matin.
Des femmes qui sauvent la terre des hommes, titre le quotidien, ce sont les trois lauréates françaises du prix Terre des Femmes, un prix qui récompense leur engagement pour le bien de la planète. L'une travaille au reboisement au Pérou,
une autre à
la protection des lémuriens de Madagascar, la troisième à monter une ferme équestre écologique dédiée à la socialisation des personnes autistes, des femmes également à la une de La Croix. Elles aiment leur métier d'homme. Portrait de la directrice d'une usine PSA de 6500 salariés qui raconte que, passé les premiers mois d'adaptation, tout le monde s'est habitué à être dirigé par une patronne. Portrait d'une femme second capitaine de navire. On dit second et pas seconde. Et on dit également marin. Pour qualifier ce métier, le féminin n'existe pas. Et le féminin de plombier n'existe pas non plus. Portrait d'une femme plombier qui explique que c'est surtout avec les clients qu'elle peut rencontrer des problèmes. J'ai l'impression, dit-elle, qu'ils sont un petit peu plus suspicieux devant mon devis, simplement parce qu'il a été fait par une femme. Comme s'il y avait des devis plus féminins que d'autres, sachant que dans le monde du travail, nous rappelle le journal, les femmes sont aujourd'hui encore sous-représentées dans les emplois à temps partiel, sur-représentées dans les emplois à temps partiel et sous-représentées aux postes les mieux payés. En revanche, elles sont de plus en plus nombreuses parmi les réfugiés. Comme l'explique le directeur général de France Terre d'Asile dans le journal du dimanche, jusqu'alors ceux qui tentaient de rejoindre l'Europe étaient en grande majorité des hommes, mais aujourd'hui, sur l'île grecque de Lesbos, plus de 60% des migrants sont des femmes et des enfants. Phénomène nouveau et massif, lié au discours de fermeture des frontières répété dans différents pays européens, les hommes qui s'étaient déjà exilés, ont compris qu'il serait difficile à l'avenir de faire venir leur famille par voie légale, une fois installés en Europe. Ils ont donc provoqué un regroupement familial de fait.
Vous savez que plombière, ça existe, c'est pas plombier, une plombier femme, enfin, mais c'est une, je crois que c'est une glace.
Oui, c'est une glace.
Voilà, exactement.
La plombière.
C'est intéressant.
Ça n'est pas la même chose.
C'est donc après-demain, disiez-vous, qu'aura lieu la journée des femmes et pour l'égalité des droits.
Et c'est ce jour-là, aux 20h de TF1, que Nathalie Kosciusko-Morizet se lancera à son tour dans la bataille de la primaire chez les Républicains. Une occasion pour elle d'appuyer là où ça fait mal, relève Thibaut Pesera dans Marianne. Une occasion de pointer la quasi-absence de femmes au poste clé de son parti. Mais pour elle, la candidature à la candidature est loin d'être assurée, qu'elle lui faut réunir notamment les parrainages de 20 parlementaires. Et c'est là que ça pêche. Les députés et sénateurs sont déjà presque tous rangés dans différentes écuries, soutien de Juppé, de Fillon, de Le Maire ou de Sarkozy. Et puis le parlementaire est par nature peu aventureux, rigole un sénateur, tandis que le député européen Brice Hortefeux explique sans rire qu'il n'est, je cite, pas suffisamment sexiste pour penser qu'il faut donner des parrainages aux femmes. En novembre, il se pourrait bien que la brochette de candidats soit donc exclusivement masculine, un concours de testostérone, ainsi que s'en désole Nadine Morano, qui aimerait bien également pouvoir concourir. Reste alors l'hypothèse Michèle Alliot-Marie, qui elle dispose encore d'un solide réseau d'élus, et puis elle déteste Juppé, et pourrait du coup se présenter simplement pour lui faire du mal, mais en termes de renouvellement, MAM, c'est moins fun que NKM, laquelle a d'ailleurs provoqué nombre de ricanements quand elle a prévenu qu'elle lancerait sa candidature le 8 mars. Ricanements notamment de Rachida Dati, qui s'en explique dans l'hebdomadaire. Nathalie n'a jamais défendu une femme dans son parcours politique, mais elle se sert toujours de la cause des femmes quand elle est en difficulté. Rachida, Nathalie, en voilà deux qui ne partiront sans doute jamais au ski ensemble.
Hillary Clinton mise d'ailleurs elle aussi sur la carte féministe.
Et ça agace prodigieusement la chroniqueuse Marie Coleman, qui dans son billet de Grazia taille un joli costard trois pièces à la candidate à l'investiture démocrate aux États-Unis. Hillary, écrit-elle, a décidé de jouer sur la corde sensible de la solidarité féminine. Mais voter pour une femme au prétexte de son sexe relève de l'imbécilité, voire de l'ignorance la plus crasse. Et elle poursuit en rappelant les propos de deux des figures qui ont récemment rejoint l'équipe d'Hillary Clinton. Ceux d'abord de Madeleine Albright, ex-secrétaire d'État de son mari Bill, qui lors d'un meeting a lancé à l'adresse des électrices « Une place de choix attend en enfer les femmes qui ne s'entraident pas ». Pour celles qui croient à l'existence de l'enfer, c'est pas très sympa, note la journaliste, et pour les mécréantes, c'est risible. Et puis, il y a les propos, très limites, là encore, de Gloria Steinem, vache sacrée du féminisme américain, qui, dans une émission de télé, a livré son explication de la présence d'autant de jeunes femmes au meeting de Bernie Sanders, l'adversaire d'Hillary Clinton. C'est, a-t-elle dit, parce qu'on y trouve beaucoup de beaux garçons. Mais oui, c'est bien connu, les filles ne pensent qu'à se faire sauter, s'emporte Marie Coleman avant de conseiller à l'ami d'Hillary Clinton d'aller vite prendre une douche froide. Les femmes en politique, le sujet a nourri les journaux toute la semaine, surtout après la mésaventure de Myriam El Khomri, la ministre du Travail, a annulé ses rendez-vous mardi, dont une interview télé à la suite d'un petit malaise, a rapporté la presse, avant que le dit petit malaise ne devienne, selon la version officielle, un accident domestique. Elle aurait glissé dans sa baignoire. Qu'importe, Nicolas Bétou, le directeur de l'Opinion, expliquait le lendemain dans les pages de son journal que Myriam El Khomri était une ministre frêle et indisposée. De son côté, le socialiste Yann Gallu estimait même qu'après cette journée d'absence, la jeune femme devait sans doute être remplacée. Elle ne serait, selon lui, pas taillée pour le job. Et c'est là l'éternel procès en faiblesse des femmes politiques, commentent Mélissa Bounois et Aude Loriot sur le site State, qui liste différents épisodes témoignant d'une condescendance quelque peu méprisante. Ainsi qu'en Fleur Pellerin a été virée du gouvernement il y a quelques semaines. On a dit qu'elle avait pleuré et même manqué de s'évanouir en apprenant son éviction. L'ancienne ministre a démenti. Non, elle n'a pas pleuré ni manqué de s'évanouir. On avait évoqué des larmes également chez Cécile Duflot un jour lors d'une séance de questions à l'Assemblée. L'ancienne ministre a démenti. Non, elle n'a pas pleuré. Mais personne, bizarrement, n'a rien dit de particulier quand Laurent Fabius, lui, a vraiment fait un malaise lors d'un déplacement à Prague cet été. On n'a pas dit qu'il était frêle ni indisposé. On a dit qu'il était grippé. Myriam El Khomri n'a pas bonne presse, c'est le moins qu'on puisse dire. Nouvel exemple ce matin dans Le Parisien, avec ce sondage sévère de l'Institut Odoxa. 7 sondés sur 10 se disent opposés à sa loi et 77% de ceux qui disent la connaître ont une mauvaise opinion d'elle, voire une très mauvaise opinion d'elle. Mais dans le journal du dimanche, Manuel Valls monte au front pour la soutenir et surtout pour soutenir sa réforme du Code du travail. Il promet des améliorations au texte, notamment sur 2 points contestés, la création d'un plafond pour les indemnités prud'homales et l'extension du licenciement économique. Enfin, un dernier rhum, cette fois, pour finir, Jean-François Maillet, à qui a été décerné le prix du macho de l'année hier. Lire sur le Huffington Post les raisons de ce prix. Il s'était distingué en associant la désertification médicale à la féminisation de la profession de médecin. Il avait affirmé que les 3/4 des nouveaux diplômés étaient des femmes. Nonobstant l'égalité, elles sont quand même là pour faire des enfants, avait-il dit.
Nonobstant.
C'est affligeant.